Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes les auditeurs de Radio Esprit Occitanie et vous savez que c'est une radio culturelle régionale. La culture n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des débats, il y a des opinions, il y a des divergences et c'est ce qui fait justement le sel de ces types d'expressions, c'est leur variété et aussi les débats qu'ils peuvent engendrer. Donc, notre président bien-aimé de Radio Esprit Occitanie, Jacques Lavergne, a écrit un éditorial sur un sujet fort intéressant, d'actualité, qui est la Biennale d'architecture de Venise 2021, et je voulais parler de ça. Alors, mettons les choses au clair, il ne s'agit pas pour moi de prendre la casquette d'un professionnel de l'architecture, parce que l'architecture est un mode d'expression, un art qui est le plus populaire, le plus collectif, et autant le métier est un métier qui demande une vie pour être maîtrisé, et je pense même plus qu'une vie, eh bien le jugement sur l'architecture, eh bien il est celui de tout le monde, et il n'est pas du tout celui des spécialistes. Alors ça c'est un point très important parce que il existe dans les autres arts des arts populaires, des expressions plus savantes qui demandent un apprentissage, une éducation, un contexte et souvent assez long. Et il n'en est pas de même avec l'architecture, justement, parce que il n'y a pas d'architecture savante, à mon avis. Il y a, par exemple, les bâtiments les plus populaires, les plus visités. Prenons au hasard, évidemment, les cathédrales, Notre-Dame de Paris, mais le Parthénon, les temples égyptiens. En fait, la liste des monuments, que ce soit les chapelles romanes, le Versailles, sont des lieux de tourisme populaire et ils sont en même temps les œuvres marquantes de l'histoire de l'architecture. Donc il n'y a pas du tout de déphasage, et ce qui veut dire que les gens ont un jugement en hiérarchisant les œuvres importantes qui est aussi pertinent, encore une fois, pour des entre guillemets spécialistes que pour le commun des mortels. Alors, ce qui veut dire que la critique de l'architecture, elle est celle de gens qui la regardent et celle des gens qui y vivent. Donc, ce sont leurs opinions qui prédominent, qui devraient prédominer, même si ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, en tout cas sur les jugements des spécialistes qui auraient tendance à avoir un langage qui leur appartient et pour essayer justement de faire de leur discipline la même chose que ce qui est arrivé aux ce qu'on appelle les arts plastiques, les beaux-arts, et je n'ai parlé dans les émissions précédentes. Donc revenons à la Biennale de Venise. Alors, ce que dit Jacques Lavergne que Venise n'est pas uniquement une destination touristique avec tout le côté négatif que ça peut avoir et que justement il est intéressant que Venise ait un événement comme celui-là qui montre qu'il y a une vitalité culturelle. Bon, alors la Biennale de Venise est la plus connue, évidemment c'est celle du cinéma. qui est déjà ancienne, et pour une raison qui est assez évidente, c'est que Venise a été et est toujours le décor de nombreux films. Alors on pense à Mort à Venise de Visconti, avec la bande son de la symphonie numéro 5 de Mahler, mais il y a aussi Belmondo, un nombre, James Bond. En fait, la liste serait très très longue à faire de tous les types de films qui ont Venise comme toile de fond, comme lieu de leur action. Alors, bon, le Lion d'or de Venise est une chose, et il est évident que la Biennale d'architecture est quelque chose qui n'a pas du tout ce même type de répercussion. Et alors, je vais jouer le mauvais esprit, c'est que il est quelque part paradoxal de voir justement, autant on peut comprendre le rôle de décor pour le cinéma, mais il est un peu paradoxal de voir justement des manifestations, à mon sens assez marginales, même si elles sont dans le vent de l'architecture, justement émaner d'une ville qui est tout à fait le contraire. C'est-à-dire, c'est une ville où l'architecture est atteint un sommet par la multiplicité de ces places, de ces monuments, de ces bâtisses d'ailleurs, qui sont des palais, et les uns et même les bâtisses les plus modestes ont une grande qualité architecturale. Et aussi, on pourrait dire d'une manière aussi ironique que la tendance actuelle des architectes, qui est la tendance actuelle de notre société, à une espèce de misérabilisme social, de s'occuper de populations éloignées, de prendre en charge toutes les misères du monde. Bon, ça, je crois qu'on est dans un dolorisme contemporain qui est alors vraiment tout à fait à l'opposé de ce qu'a été Venise. Venise conquérante, Venise était organisée et tenue par une main de fer des doges, et le pont de soupir n'est pas le pont des soupirs amoureux, et on le sait, c'était celui des prisonniers transférés dans les prisons. Alors, donc déjà, c'est le premier paradoxe. Si on voulait être logique, mais des fois, la logique n'est pas là. On peut aussi penser aux oppositions. La logique voudrait que ce type d'événement sur l'architecture actuelle, enfin, disons, cette partie de l'architecture actuelle qui est tourné vers le social, ait lieu dans des lieux, on peut dire, plus conformes, plus adaptés. On aurait la Biennale de Sarcelles ou la Biennale de la Courneuve, par exemple. Bien sûr, je fais de la provocation par rapport à ce texte, mais la question qui est posée pour ces manifestations sur l'architecture, c'est qu'en fait, ça reste infiniment dématérialisé. C'est le propre, justement, de ces expositions. Et c'est-à-dire tout à fait le contraire de ce qu'est l'architecture, qui est justement lourde, pesante, et qui, effectivement, ne se prête pas à des itinéraires et à des déplacements. Alors, on a dans ces types de biennales un grand nombre de vidéos et aussi un grand nombre d'idéologies. Alors, la question que je pose, c'est justement, est-ce que les architectes sont dans leur rôle d'être des débatteurs politiques, en fait, puisqu'il s'agit de cela. Il s'agit dans cette exposition de déjà l'introduction qui a été faite, elle prend le constat que le bâtiment, donc le bâtiment, c'est les édifices, c'est l'architecture, est la cause pour plus de 40% des émissions de CO2, donc du réchauffement climatique, donc de la destruction de la planète. Donc il y a déjà un préambule, on peut dire, masochiste. Et donc on va abattre notre coulpe par rapport à cela, et on va trouver des modes expiatoires pour expier nos péchés en quelque sorte, ou du moins trouver des solutions qui seraient dans le sens, on peut dire, de cette idéologie-là, idéologie contemporaine. Alors, bon, on peut dire, tout cela est pourquoi pas, et tout cela est fort bien. Mais on peut quand même poser quelques questions. Alors, tout d'abord, et vous avez peut-être déjà entendu dans mes propos la remise en cause de ce chiffre où le bâtiment serait responsable de 40%, donc vous imaginez, c'est quasiment la moitié, plus même de la moitié des émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est le terme consacré, donc de CO2, alors il le serait par les activités, par ce que dégagent les bâtiments. Alors il y aurait une part qui serait dans la construction des bâtiments, et puis il y aurait la plus grosse partie qui serait due à ce que les bâtiments provoquent. C'est pour cela qu'il y a des nouvelles lois, des nouvelles règles sur les bâtiments. Alors je vais répéter ce que j'ai déjà dit, ça me paraît une belle imposture, parce que les bâtiments ne produisent aucun gaz à effet de serre. Alors vous allez me dire, mais c'est pas vrai. Mais écoutez, il s'agit pas des bâtiments. Les bâtiments eux-mêmes sont les boîtes neutres, immobiles, des activités humaines. Si vous prenez un château qui est, si ce n'est inhabité, mais habité par des aristocrates qui, dans ce château qui fait des plusieurs milliers de mètres carrés de plancher, où une famille va occuper deux ou trois pièces sur les centaines de pièces qu'il y a, bah, ce château, on peut dire, il n'émet rien du tout. Par contre, si les aristocrates qu'ils habitent et dont ils ont hérité de génération en génération le vendent à, je ne sais pas, une société par exemple de la nouvelle économie, et que ces gens-là vont y installer toute cette mécanique aujourd'hui de qui va recevoir des données, d'ordinateurs qui vont dépenser une électricité incroyable, qui vont émettre effectivement certains types de gaz de pollution. Enfin, je parle de la nouvelle économie, ça pourrait être des choses totalement différentes, ne serait-ce que du tourisme avec des cuisines, parce qu'on organisera des mariages, etc. Enfin, c'est ça serait tout à fait différent. Mais alors, le château, lui, il est toujours pareil. Et qu'est-ce qui a changé? Ben, ce qui a changé, c'est l'occupation et les gens qui sont dedans. Donc, ce sont les activités. Et un bâtiment qui va être un bâtiment lambda, s'il est occupé parce que il est juste un entrepôt de paille, par exemple, et le même entrepôt qui va être identique architecturalement et dans lequel il va y avoir une usine avec des robots et aussi, je ne sais pas, des transformations de matériaux parce que on va faire des produits chimiques, etc. Ben, il est évident que on aura des choses totalement différentes, mais le bâtiment n'y pour rien. Donc, ça me semble assez grave de confondre contenant et contenu, et je pense que c'est un des problèmes majeurs dans ce type de réflexion, c'est bien celui-là. On va marquer une pause musicale et on va reprendre sur ce sujet.
Don't mean a thing if you ain't got that swing.
It don't mean a thing, all you gotta do is swing.
Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm every little thing you've got.
It don't mean a thing if you ain't got that swing.
Que je reprends sur contenant et contenu. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est un sujet particulièrement important, puisque, pour revenir à notre Biennale de Venise, c'est une thématique sociale qui est posée, et on fait le lien entre les solutions architecturales et aussi les modifications sociales. Voilà, c'est un débat qui est intéressant et qui mérite d'être posé. Mais en préalable, il y a tout de même ce problème de contenant et contenu qui peut être, comme je vous disais, parfaitement abusif en attribuant la responsabilité des activités humaines au bâtiment, ce qui est une aberration sur un plan des émissions nocives. Entre guillemets, mais ça va plus loin cette démarche. Alors, je vais raconter une histoire qui est déjà assez ancienne et qui est une histoire toulousaine. Il y avait à l'entrée de l'université du Mirail, aujourd'hui Jean Jaurès, un petit bâtiment qui était un bâtiment pour loger des étudiants, de chambres d'appartements pour étudiants, qui s'appelait Midifac. Et il était en position, effectivement, dans l'articulation entre l'entrée de la fac et, évidemment, le quartier du Mirail. Il y avait justement les problèmes que l'on connaît. Et donc, ce bâtiment était devenu la plaque tournante du trafic de drogue locale. Et petit à petit, les étudiants avaient été expulsés et ce bâtiment était occupé par des dealers et par leur trafic. Bon, comme l'on sait, tout cela, c'est illégal, c'est de la violence, et un jour, il y a eu un des dealers qui a été tué. Et alors, on peut dire, oui, très bien, et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je me souviens très bien de l'article de La Dépêche à ce moment-là qui racontait cette histoire, et l'article concluait comme quelque chose qui était une évidence, eh bien, on va démolir cet immeuble. Alors cet immeuble était pas très grand, mais il était neuf, il avait été construit par des architectes de qualité, l'atelier 4 des architectes de Toulouse. Il avait une architecture originale et donc il a été détruit. Et je pense que les trafics de drogue ne l'ont pas été, et il n'a pas été détruit évidemment avec les dealers à l'intérieur, et simplement il était en victime expiatoire. Donc vous voyez que ça va beaucoup plus loin, ce contenu et ce contenant, et d'ailleurs, toutes les politiques urbaines de la ville sont des politiques qui jouent justement sur cette ambiguïté entre contenant et contenu. Alors évidemment, ça arrange beaucoup de gens, il y a des architectes, des bureaux d'études qui, on peut dire, qui profitent de l'aubaine pour refaire des bâtiments, en disant, en refaisant les bâtiments, eh bien on va changer les populations, on va changer le comportement des populations, ce qui évidemment n'a absolument aucun sens. C'est une question de peuplement, c'est une question culturelle, c'est une question sociale, et pour laquelle l'architecture n'a pas de rôle à jouer, ou en tout cas tellement mineur que ça ne justifie pas, en tout cas, l'immensité des sommes qui est déversée chaque année dans ces fameux projets de ville sur lesquels on ne se pose justement pas cette question de base. Alors, justement, c'est bien le problème de cette biennale, mais il ne s'agit pas que de la biennale, bien sûr, parce que il s'agit de ce qui est enseigné dans les écoles d'architecture et aussi de ce qui est, on peut dire, autoproclamé architecture, on peut dire, de pointe, parce que il y a des systèmes de cooptation et qui fait que ces mouvements qui me paraissent assez aujourd'hui, enfin qui étaient marginaux et aujourd'hui qui deviennent centraux. Alors évidemment, comme toujours, il y a des intérêts derrière tout cela, et on peut quand même s'interroger. Dans le cas de la biennale, par exemple, dans la biennale, c'est comme des représentations par pays, et donc la sélection française qui a été faite évidemment par à toi à moi habituel, et on peut pas dire qu'il y ait des processus démocratiques de désignation. Il y a notamment l'équipe qui a été choisie, qui a pris des exemples pour montrer que le vivre ensemble, puisque ça a été, c'était le thème aussi de cette biennale, qui était comment nous habiterons demain, bon, qui est à peu près le titre de mon émission, mais mon émission, le titre est ironique parce qu'en fait, je montre qu'on ne peut pas savoir où on habitera, et l'émission, elle est basée sur la réalité et la compréhension du monde dans lequel nous sommes. Bon, je ferme la parenthèse. Alors, pour revenir à ce sujet, qui est celui de la délégation française, de la représentation française. Donc il y a des exemples qui sont pris dans le monde entier, et pour montrer l'universalisme des problèmes. Donc, entre autres, il y a Détroit et il y a Soweto, où une équipe de l'école d'architecture de Toulouse était partie rénover un cinéma. Alors, je vous dis pas l'affaire, c'est-à-dire que l'enseignant qui s'est occupé de cela, il a fait un grand nombre de voyages, et puis les étudiants, et tout cela, ça a été évidemment quelque chose qui a coûté énormément cher, parce que l'Afrique du Sud, on peut pas être plus loin, donc c'est des voyages extrêmement chers, et Bon, le problème de l'apartheid d'Afrique du Sud, c'est quelque chose qui ne touche pas nous les Français. Je vois pas très bien le lien que l'on peut faire pour de telles actions, et si ce n'est que on est dans une sorte de dolorisme universel aujourd'hui, et il en est de même pour Détroit. Où je ne vois pas non plus quel est le lien qu'il peut y avoir entre la France et ces fameuses actions de jardin dans les entre guillemets ghettos de Détroit. Pour ceux qui m'écoutent, j'avais déjà parlé de cela, du fameux Détroit ville fantôme, et puis de la rénovation de Détroit grâce au jardin. Alors, il se trouve que dans les deux cas, un, j'étais enseignant au moment à l'école d'architecture de Toulouse, au moment de cette opération de Soweto, et dans le cas de Détroit, j'étais élève il y a bien longtemps à Détroit dans une école d'architecture, et donc. Je connais les problèmes de cette ville, et évidemment il s'agit de périodes anciennes, mais les problèmes de Détroit ne sont pas des problèmes récents. Les problèmes, c'est une ville extrêmement riche d'un côté, avec des industries, et puis il y avait, comme dans beaucoup de villes américaines, des centres-villes qui avaient été abandonnés et qui étaient devenus des lieux de populations immigrées du Sud et des populations pauvres, et des populations de Noirs, effectivement, avec des problèmes qui étaient liés justement à cette pauvreté, immigration, qui étaient des problèmes de gangs, des problèmes de meurtres, des problèmes de drogue. Bon, enfin, le cinéma montre ça assez souvent, j'ai pas besoin de le raconter. Simplement, les histoires de jardins qui avaient été inaugurées par Madame Obama à Détroit, c'est la région des Grands Lacs qui est frontalière au Canada, et comme vous le savez, c'est au fond de moi, je pense que je vous le rappelle, 6 mois par an, c'est une température hivernale continue, il y a, la neige ne fond jamais, et la neige s'accumule, donc pendant 6 mois, des serres extérieures ou des jardins, ce que l'on a vu en photo pour nourrir les populations, je pense qu'il faudrait que les populations hibernent de la manière des ours et des marmottes, et pour arriver à cette autosuffisance alimentaire dont on parle tant. Je pense que là, il s'agit d'une opération manipulée totalement, qui n'a aucune réalité, et qui aussi qui méconnaît totalement l'histoire de cette ville, avec aussi des a priori qui sont bien loin de la réalité présente et de la réalité historique. Donc voilà, tout ça c'est pour dire que les bons sentiments ne sont pas suffisants pour faire bouger ou proposer des choses réalistes, surtout quand il s'agit d'histoires qui sont très éloignées de nos problèmes réels. Alors la question fondamentale, c'est effectivement quel est le rôle des architectes dans ce vivre ensemble. Et là, je suis un peu dubitatif, parce que je pense que dans une société, chacun doit être dans son rôle. C'est-à-dire que le rôle des architectes, alors les architectes peuvent tout à fait faire de la politique, avoir leurs opinions et militer dans les associations, dans les partis, mais le métier n'est pas celui-là. Et les écoles d'architecture doivent apprendre le métier comme on apprend le métier de chirurgien, comme on apprend le métier de charpentier, et la sociologie, tout ça c'est très bien, mais enfin ce ne sont pas le métier que l'on est censé apprendre et pratiquer. Donc il y a de ce côté-là, d'abord il n'y a pas de légitimité d'un architecte pour prendre place dans un débat en tant qu'architecte, en tout cas, dans un débat social, et par exemple, puisque c'était le thématique de cette biennale, c'était le vivre ensemble, ben, le vivre ensemble, les architectes, si les gens veulent vivre ensemble, on peut dire dans une mixité qui peut être sociale, qui peut être ethnique, qui peut être culturelle, bon, grand bien leur fasse, c'est très bien. Mais aussi, il y a des gens qui peuvent demander de ne pas vivre ensemble. Et on peut, je ne sais pas, par exemple, prenons un exemple, vous avez sur la côte des colonies de vacances, des camps de vacances de d'EDF, ou et des postes à Agde, par exemple, eh bien, les postiers prennent leurs vacances ensemble. Alors, il faudrait, au nom de la du vivre ensemble, leur dire, mais non, vous devrez vous mélanger avec les autres. Donc, il y a aussi les nudistes qui veulent être ensemble, etc. Donc, je pense que on n'a pas à émettre un choix par rapport à cela. Le rôle de l'architecte, c'est de construire le mieux possible en fonction de la demande sociale, et on doit être à l'écoute de la demande sociale, mais le rôle de citoyen est à côté, et le rôle de professionnel, d'ailleurs, on est tout à fait dans la possibilité de refuser un projet que l'on n'a pas envie de faire, comme moi par exemple. J'ai jamais voulu faire des prisons, non pas que je pense que les prisons ne sont pas nécessaires, mais ce que je n'avais pas envie que des gens me disent « on a été dans votre prison » voilà, c'était une expérience terrible. Mais ça, c'est peut-être de l'égoïsme, mais c'est un choix personnel. Et donc, je pense qu'il est important que dans une société, les responsabilités soient attribuées à chacun et que on ne n'essaie pas de prendre le rôle de l'autre. Voilà, c'est ma conclusion aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine.